Vous écoutez France Culture, il est 8h, c'est le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La question du racisme au sein des forces de l'ordre, plus que jamais au cœur des débats, écho non seulement à la mort de George Floyd aux États-Unis, mais aussi à la lutte contre les violences policières en France. Des manifestations pourraient avoir lieu tout le week-end, malgré l'interdiction des rassemblements. Nous vous expliquerons tout cela.
Autre victime de la police, un jeune homme tué par erreur, et par erreur étant entre guillemets, à Jérusalem. Palestiniens et Israéliens manifestent depuis une semaine.
Le chef d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été abattu cette semaine par les forces françaises dans le nord du Mali. Il était le chef historique du djihad au Maghreb, vous comprendrez pourquoi.
Nous irons ensuite en Chine où une partie des universités ouvrent après 5 mois d'arrêt. Mais avec la hausse du taux de chômage, les étudiants craignent pour leur avenir.
Et puis visite de Versailles en fin de journal. Du nouveau Versailles à l'heure des gestes de sécurité sanitaire, le château rouvre aujourd'hui. Après cette édition, Caroline, l'après-épidémie, l'après-crise, justement, vous recevrez ?
Oui, nous recevrons l'historienne des sciences Ami Dahan. Au moment où la crise sanitaire semble céder la place à la crise économique et sociale, il est temps de s'interroger sur les promesses du monde après. Nous le ferons en sa compagnie.
Et ce sera à partir de 8h15. En ce week-end qui débute, des appels à manifester ont donc été lancés un peu partout en France. Nouvelle journée de manifestation, de mobilisation contre le racisme et les violences policières. Mais comme mardi dernier à Paris où 20 000 personnes s'étaient réunies, ce samedi aussi des rassemblements sont interdits. Dans la capitale, pas plus de 10 personnes. Les autorités invoquent l'urgence sanitaire, Faustine Calmel.
Les rassemblements qui ont fait l'objet d'une déclaration officielle sont interdit. C'est le cas à Paris pour 2 appels à manifester devant l'ambassade des États-Unis, secteur on ne peut plus sensible, tout près de l'Élysée. Un autre rendez-vous donné, lui, sur le Champ de Mars via les réseaux sociaux est également prohibé, indique la préfecture de police, qui estime que les incidents en marge de la mobilisation mardi dernier laissent craindre des troubles à l'ordre public. D'autres appels ont été lancés à Marseille, Nantes, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier et Rennes. Là, les autorités sont vigilantes et prudentes. Surveillance rapprochée, intervention mais seulement en cas de débordement, pas de dispersion. A priori, si tout se déroule dans le calme et le respect des gestes barrières, des rassemblements qui ces derniers jours ont vu défiler énormément de jeunes, pas forcément politisés ni rompus aux manifestations. Pour certains, c'est leur première participation, un peu comme leur démarche pour le climat, explique une organisatrice à Marseille qui voit dans ses nouveaux soutiens l'occasion de peser dans le débat public.
Et la mobilisation est d'autant plus forte en ce moment que parallèlement à la mort de l'Afro-Américain George Floyd il y a 2 semaines aux États-Unis, tué par un policier, que parallèlement le sujet est donc sensible dans l'Hexagone. Il y a d'abord le décès d'Adama Traoré qui pose toujours question. Il est mort il y a 4 ans après une interpellation musclée là aussi. Il y a également la publication de messages racistes sur une page Facebook attribuée à certains membres des forces de l'ordre. Information donnée cette semaine par le site Street Press qui a poussé hier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à saisir la justice. Car selon le site d'information, effectivement 8000 personnes appartiendraient à cette page Facebook, à ce groupe sur lequel on trouve de très nombreux messages haineux, racistes, sexistes, homophobes. Des messages auxquels a eu accès Bénédicte Desforges, ancien lieutenant de police, auteur aussi de plusieurs livres. Elle dénonce ce groupe Facebook.
Il est ignominieux, il est ordurier, il est indigne de fonctionnaires de police. On peut considérer qu'un groupe de 8000 membres, c'est comme un groupe public. Ça a une portée, une résonance énorme. C'est quelque chose qui devrait être sanctionné déjà disciplinairement. Je ne sais pas si ça va l'être, je ne sais pas comment ils vont retomber sur leurs pieds pour identifier les fonctionnaires de police derrière les pseudos, mais ça ne peut pas durer. Je veux dire, les réseaux sociaux, ça aurait été une chance inouïe pour la police parce qu'elle est soumise à l'obligation de réserve. En fin de compte, c'est un défouloir où la haine fédère tout le monde, où tout le monde se lâche, sous pseudo c'est facile. Et là, on a on a des caricatures de flics racistes, idiots, haineux. Bien sûr que ça me révolte parce qu'il y a quand même des flics qui travaillent très proprement, mais ils vont être obligés d'endosser ce costard qu'on leur a fabriqué et ça va les mettre en péril pendant dans leur travail. Parce qu'une police comme ça, on ne peut que la détester.
C'était Bénédicte Desforges, interrogée par Florence Turm. Même débat outre-Atlantique, même manifestation d'ampleur là-bas. Dans la capitale fédérale Washington, les organisateurs des manifestations espèrent voir défiler cet après-midi 1 million de personnes. Début du rassemblement prévu à 20h, heure française. Et voilà qui résonne aussi aux mobilisations du moment. Les appels à la justice se multiplient après la mort d'Iyad Alak samedi dernier à Jérusalem. Ce jeune palestinien autiste de 32 ans a été tué par erreur, a dit la police palestinienne, la police israélienne. Des rassemblements ont eu lieu depuis. Sur les réseaux sociaux, les figures de George Floyd et d'Iyad Alak sont souvent associées. Colère dans les territoires palestiniens et en Israël également, Alice Froussard.
Des centaines de personnes, des cris d'indignation et des panneaux « Être palestinien n'est pas un crime, justice pour Iyad, justice pour George » en écho aux manifestations aux États-Unis. Shahar, 28 ans, militante israélienne, fait partie du mouvement Free Jérusalem. Elle a participé aux manifestations et selon elle, de plus en plus d'Israéliens touchés par la mort d'Iyad commencent à comprendre l'ampleur du problème.
À Jérusalem, le contexte de l'occupation fait que les Palestiniens sont les ennemis automatiques et tout peut être fait contre eux, sans aucune précaution ni conséquence. Et ça arrive tellement souvent que les autorités ne peuvent pas dire que ce n'est pas leur politique. C'est leur manière de faire. Ils utilisent la violence, la brutalité et ensuite ils posent des questions.
Les autorités israéliennes ont exprimé leurs regrets. Un rabbin est venu saluer la famille, mais selon les Palestiniens, ces tragédies arrivent bien trop souvent. Ahmad Al-Azam est professeur de sciences politiques à l'université de Birzeit. Cela lui rappelle une discussion qui l'a beaucoup marqué sur la peur de l'une de ses étudiantes palestiniennes à chaque fois qu'elle croise un soldat israélien.
Elle m'a dit que quand elle était au checkpoint de Qalandia, à chaque fois elle avait peur de prendre un mouchoir dans son sac. Elle m'a dit « Je ne le fais pas car je ne sais pas ce qu'il peut se passer ». Car les soldats penseront peut-être que je vais sortir un couteau ou une arme. C'est en quelque sorte le cauchemar quotidien que vivent les Palestiniens.
Une association israélienne a d'ailleurs documenté une liste d'une dizaine de Palestiniens abattus en 2019 par la police par erreur alors qu'ils étaient non armés.
C'était notre correspondante à Jérusalem, Alice Froussard.
France Culture 8h07, suite du journal. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué au Mali par les forces françaises.
Oui, c'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui a confirmé cette information hier soir. Elle évoque un succès majeur après une opération menée par des hélicoptères et des troupes au sol dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. Et la mort, donc, d'Abdelmalek Droukdel, l'un des plus importants chefs djihadistes au Sahel, le chef d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son portrait ce matin est signé Claude Guibal.
Son nom se confond avec l'histoire du djihadisme en Afrique du Nord depuis ses débuts pendant la décennie noire en Algérie où ce jeune diplômé en chimie rejoint les rangs du GIA dont il devient l'artificier. Mais les frontières algériennes ne lui suffisent pas. Son modèle, il le trouve en Oussama Ben Laden qui, avec les attentats de 2001, a projeté l'islamisme armé dans une dimension internationale. Droukdel prête allégeance et fonde en 2007 ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, une filiale dont l'influence va gangréner tout le Sahel. Sa méthode, les attentats suicides, les gros coups, le racket, les enlèvements, le contrôle des routes de contrebande, maître du désert, mélange de grand banditisme et de terreur religieuse. Son influence était fragilisée par ses rivalités avec ses autres frères de djihad, Mokhtar Belmokhtar ou Iyad Haghrali, fragilisée aussi par la montée en puissance de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Sa mort, si elle est loin de signifier la fin d'ACMI, est une très grande victoire pour les forces de Barkhane qui, en éliminant l'insaisissable Droukdel, montrent leur capacité de renseignement et l'efficacité d'opérations de plus en plus ciblée.
Et j'ajoute que lors de cette opération menée mercredi, plusieurs de ses collaborateurs ont également été tués. L'un des djihadistes a lui déposé les armes et s'est rendu. Depuis le sommet de Pau en janvier dernier, les forces françaises de Barkhane sont passées à plus de 5000 soldats déployés sur le terrain. Il prend la voix de son voisin et ami américain. Le président brésilien Jair Bolsonaro a menacé cette nuit de retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé. Comme Donald Trump, il entend protester contre ce qu'il appelle le parti pris idéologique de l'OMS face à la pandémie de nouveau coronavirus. Un virus que la Chine se targuait il y a 2 semaines d'avoir vaincu. Ce samedi, une partie des universités rouvre leurs portes dans le pays. Mais lors de ces 5 mois de fermeture, le chômage a explosé en Chine. Les observateurs estiment même qu'un quart des jeunes diplômés chinois ne trouveront pas de travail à leur sortie à l'université. Les millions d'étudiants attendus sur les campus aujourd'hui sont donc plus inquiets pour leur avenir que pour leur santé. Voici ce qu'a constaté Stéphane Pambrin.
Au nord de Pékin, l'université de technologie chimique est l'une des premières à rouvrir ses portes aujourd'hui. Li Jiang, directeur de l'université.
Nous avons mis en place un algorithme pour suivre les étudiants tout au long de leur journée à l'université. En cas d'urgence, nous pouvons entrer très rapidement en contact avec chacun d'entre eux.
Mais l'épidémie n'est pas ce qui inquiète le plus les étudiants, comme Yang Ran qui sera diplômé cette année. Pour la première fois depuis les années 80, la Chine fait en effet face à un chômage de masse important.
Je suis surtout inquiète de ne pas trouver de travail à la sortie de l'université. Alors je commence déjà à regarder les petites annonces sur Internet.
À cause de l'épidémie, je ne peux pas chercher du travail.
Huang Lin, diplômé l'an dernier.
Je ne sais pas quoi faire de mon temps, alors j'essaie d'étudier chez moi, je lis des livres et je prends des notes.
Une situation d'autant plus difficile que la Chine doit créer chaque année plus de 11 millions d'emplois pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Une urgence, d'autant qu'il n'existe en Chine aucun filet social pour aider ces jeunes chômeurs, ce qui fait peser un risque pour la stabilité du régime communiste qui a bâti sa légitimité sur la croissance économique.
Les universités encore, mais en France maintenant, toujours fermées et toujours en colère contre la loi sur la recherche, le risque de compétition et de précarisation. Étudiants, enseignants, chercheurs, ainsi que tout le personnel, notamment administratif, tous sont invités aujourd'hui à se mobiliser virtuellement. Une rencontre nationale aura lieu grâce aux réseaux sociaux cet après-midi. Ils protestent notamment contre le flou qui entoure le projet de loi. Il devrait être présenté au courant du mois de juillet, mais sans véritable concertation. De quoi agacer Marie Sonnette, elle est maîtresse de conférences en sociologie et membre du comité de mobilisation des facs et labos en lutte.
On est absolument estomaqué, c'est-à-dire que le gouvernement convoque le 12 juin les organisations syndicales pour présenter un texte qu'on n'a toujours pas, c'est-à-dire qu'on a une loi pluriannuelle de la recherche qui nous est promise depuis maintenant 2 ans. On n'a toujours pas de texte, on a des rapports préparatoires qui sont très alarmants et qui ont suffi à faire qu'on se mobilise très fortement. 10 jours avant le confinement, nous avions eu un mouvement qui s'appelait l'Université de la Recherche s'arrête, où il y a eu des dizaines de milliers de manifestants partout dans la France sur cette question-là de la LPPR et sur le fait qu'on voulait une université et une recherche qui fonctionnait. 10 jours plus tard, le confinement. Depuis, nous n'avons pas pu retourner sur nos facs. Les collègues ne sont pas présentement sur les facs pour discuter de cela. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, on va quand même aller voter la LPPR et la discuter sans vous. C'est un déni, un mépris total à l'égard des enseignants-chercheurs, des étudiants, des personnels administratifs, etc., qui font fonctionner ces universités-là, qui ont travaillé parfois plus de 50 heures par semaine pendant le confinement pour arriver à faire tenir les formations, à être proche des étudiants, etc. Et leur dire on ne va pas vous écouter et on va quand même faire passer cette loi que vous dénoncez avec force et vigueur. Si le gouvernement s'entête et refuse de reculer la présentation de la loi, au moins à un moment donné où les universités seront réouvertes, eh bien nous allons bien sûr nous rendre et manifester devant ces instances. Ça nous semble complètement scandaleux.
Des propos recueillis pour France Culture par Margot Delpierre. Voilà un établissement qui a le droit d'ouvrir ses portes et qui le fait aujourd'hui. Le château de Versailles, l'un des plus prestigieux du pays. À cause des précautions sanitaires, il accueillera toutefois 6 fois moins de public qu'il y a 2 mois et demi. Et pour les chanceux, tout a été pensé, Yvan Planteil.
Pour quelques semaines, voire quelques mois, il va falloir s'habituer à ne plus déambuler tranquillement dans le palais de Louis XIV. Avant de venir, il faut réserver et penser à prendre un masque. Et une fois sur place, une visite d'une heure démarre avec un parcours défini, explique Catherine Pégard, la directrice.
On commencera par la visite des appartements du roi, on traverse la galerie des glaces, on fait la visite des appartements de la reine et on ressort, c'est-à-dire la visite n'a qu'un seul sens, et ce qui permet de respecter à la fois les distances et la jauge dans les règles sanitaires qui nous sont aujourd'hui imposées.
1 heure pour faire visiter les milliers de mètres carrés du château et surtout relancer la billetterie. Elle représente 70% dans le budget global de la résidence royale. Alors pour le moment, on fait les comptes des pertes liées à cette fermeture, mais elle s'élève désormais à plusieurs dizaines de millions d'euros, d'où l'aide financière demandée à l'État.
Dans le cadre d'un plan de relance, on peut nous aider à assumer les travaux qui sont engagés, les travaux que nous devons engagés pour la sécurité, par exemple, du château de Versailles et qui doivent continuer. Par exemple, les travaux de restauration de la chapelle royale qui ont été interrompus mais qui devraient être terminés avant la fin de l'année. Et donc, le château de Versailles a un écosystème, si j'ose dire, qui dépasse très largement ses grilles.
Tous ces chantiers font vivre des artisans, car si l'un des symboles de la culture française voit son chiffre d'affaires en chute libre, c'est encore pire pour les quelques 70 entreprises qu'il emploie au quotidien.
C'était Yvan Planteil. Un mot des commémorations du débarquement en France en ce samedi 6 juin. Les cérémonies se dérouleront aujourd'hui sans public ni vétérans, toujours à cause de la crise sanitaire. A priori, il ne pleuvra pas à Versailles aujourd'hui, pas non plus sur les plages de Normandie. Des averses vont s'étirer seulement du Poitou-Charentes à l'Alsace pour progresser légèrement vers le nord de Rhône-Alpes. Ailleurs, les éclaircies se feront une place aujourd'hui sous des températures qui restent un peu fraîches. 14 degrés ce matin à Brest, 15 à Lille et Strasbourg, 18 degrés à Paris et La Rochelle, 22 à Lyon, 25 à Perpignan.